Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées.
De Lexing Switzerland qui sera consacré aux prochaines élections fédérales. Alors pour les auditeurs qui ne seraient pas en fait soit suisse soit acclimatés, si vous m'autorisez cette digression verbale, à notre système démocratique, il s'agit de nos élections au Parlement fédéral qui se dérouleront cet automne. Pourquoi évoquer des élections en relation avec la protection des données? Parce que nous avons une crainte tous, depuis l'affaire de Cambridge Analytics, et que de surcroît, nous avons déjà rencontré quelques petits problèmes en Suisse, faut-il le rappeler, avec ce type d'élection. Dans le canton du Valais, nous avions eu, disons, quelques libertés prises avec la collecte d'adresses e-mail, dans le but évidemment d'orienter les électeurs. Le problème, c'était que les électeurs n'étaient pas informés, n'avaient pas consenti à cette collecte et que de surcroît, dans le cadre de cette collecte, eh bien, ils avaient été, entre guillemets, convaincus du fait que des associations avaient soutenu ce candidat ou cette candidate, ce qui n'était pas le cas. Donc, ça avait posé un certain nombre de questionnements qui n'avaient jamais été résolus puisqu'en réalité, l'élection n'étant pas serrée, et c'est l'un des problèmes, personne n'avait recouru contre cette élection et ces questions étaient demeurées ouvertes. Alors, il y a 6 mois en Suisse, le préposé fédéral à la protection des données, qui est responsable des relations entre les privés, et les préposés cantonaux, qui sont eux responsables des relations avec les autorités, en termes de protection des données, ont édicté un guide à l'intention des partis et des groupes d'intérêt. Ce guide a été revu encore récemment. Alors, vous trouverez le lien vers ce guide en fait au bas du descriptif de cet épisode. Et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ce sera suffisant pour réglementer les e-campagnes électorales de cet automne. Alors, même si ce guide constitue un premier pas, on ne peut pas considérer, à l'aune de ce que nous avons déjà vécu, que cela suffira, si vous voulez, à juguler les tentatives de tricherie qui sont évidemment favorisées par la fulgurance du numérique, qui offre à tous les sophistes, donc tous ceux qui veulent tenter de vous convaincre d'un discours ou d'un autre, en herbe, d'influer facilement sur les résultats. Ça pourrait, si vous voulez jouer un premier rôle en termes de prévention, mais le guide lui-même, eh bien, force est de constater qu'il ne suffit pas à effrayer tous les gens qui souhaiteraient tricher. La question qui se pose, c'est de savoir si le préposé fédéral qui va gérer donc cette élection a suffisamment de pouvoir pour surveiller cette campagne des partis en vue du 20 octobre qui sera la date en fait de l'élection. Alors personnellement, je ne peux pas m'exprimer en son nom. Par contre, ce qu'on peut constater, et ça c'est un élément objectif, c'est que les moyens dont il dispose à ce jour sont infinitésimaux et qu'il n'a pas de compétence s'agissant du résultat. Et donc, il ne peut pas influer sur le résultat d'une élection, par exemple, dans le canton de Vaud, en disant, écoutez, là, j'ai un certain nombre de problèmes que j'ai pu mettre en exergue avec mes équipes, et donc, il faudrait qu'on discute du résultat. Pas du tout. Il y a uniquement la possibilité d'une action déterminée sur le plan du résultat qui pourrait décourager ceux qui violent les principes démocratiques et manipulent l'opinion. Le préposé fédéral, lui, a un pouvoir de recommandation. Ça veut dire qu'il ne peut rien empêcher, ce d'autant qu'il a décidé de ne pas publier l'identité des éventuels mauvais élèves, ce qui pour moi est une erreur, parce que les citoyens manipulés sont en droit de savoir par qui et comment. Et de surcroît, si une autorité garante de la transparence ne le dit pas, eh bien, qui va le dire en réalité? Pour ma part, je pense qu'il est très important que dans le cadre d'un tel mandat, dont le but est de protéger les droits des citoyens, que nous indiquions à ces derniers, nous avons constaté des irrégularités, que nous explicitions ces irrégularités, que nous y mettions un terme et évidemment que nous mettions en exergue les comportements des personnes qui ont agi ainsi. Pour ma part, nous ne sommes pas élus pour plaire, mais pour défendre les droits fondamentaux. Alors, les citoyens ont-ils des problèmes aujourd'hui lorsqu'ils visitent les sites des différents partis, notamment en termes de transparence? Alors, le principal problème que nous avons lors d'élections, c'est la constitution illégale de bases de données. Alors, on a des candidats qui, par des biais détournés, par exemple dans un cadre associatif, professionnel, dans le cadre d'un club sportif, vont phagocyter les adresses e-mail d'un très grand nombre de citoyens, ces adresses e-mail dont ils se servent ensuite pour leur campagne. Manifestement, en agissant de la sorte, ils violent crassement les règles fondamentales de la protection des données, car jamais ces citoyens n'ont consenti à l'utilisation de leurs données dans ce but. C'est-à-dire que jamais ces gens n'ont dit « je suis d'accord de recevoir de la publicité politique ». Et lorsque vous disposez d'une bonne base de courriel, vous pouvez influencer l'opinion. Il est déjà arrivé, notamment dans le canton du Valais, qu'un candidat ou une candidate dispose de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'adresses de courriel. Alors, imaginez la situation où vous avez 300 000 personnes et que vous avez 10% des adresses mail des citoyens. Évidemment que cela va impacter le résultat. Et puis, on a aussi à ces collectes donc sauvages d'adresses e-mail, un autre phénomène qui s'ajoute, c'est que évidemment que lorsque vous visitez certains sites de partis politiques, eh bien vous avez aussi une collecte qui intervient. Alors parfois, elle est respectueuse du droit, parfois pas. Si vous vous doutez, par exemple, qu'une collecte pourrait ne pas être respectueuse du droit, vous pouvez sans autre utiliser des outils gratuits pour auditer. Il y a des petits outils d'audit qui vous donneront une première information et vous saurez ainsi si ces gens respectent ou pas les normes en matière de protection des données. Alors, ce qui serait utile, et ça je le dis pour les journalistes, c'est d'utiliser ces outils pour faire un classement de celui qui est le plus fair-play et de celui qui est le moins fair-play. Ainsi, les citoyens suisses auraient la possibilité de savoir, avant de voter, dans le cadre de la campagne, à qui ils peuvent faire confiance et à qui ils ne peuvent pas faire confiance. L'autre question qui se pose, c'est celle de savoir si les citoyens en Suisse disposent d'un droit et de droits suffisants pour dénoncer des méthodes abusives quant au traitement de leurs données personnelles. Alors actuellement, on peut répondre par la négative. Si vous décidez d'accéder à des données qu'un parti détiendrait à votre sujet et que celui-ci s'y oppose, vous devrez saisir un juge civil. Dans une affaire valaisanne récente de droit d'accès, un juge valaisan a sollicité une avance de frais de 4000 francs de la part d'un citoyen qui voulait simplement savoir quelles étaient les données détenues à son sujet, par un tiers avec lequel il avait une relation contractuelle. Donc vous comprendrez bien qu'il n'y a pas un seul citoyen qui va investir 4000 francs pour savoir ce qu'un parti politique peut détenir à son sujet. Alors cette voie judiciaire est onéreuse et complexe. Se pourrait qu'à l'avenir, avec le nouveau droit qui est actuellement en traitement au Parlement fédéral, nous obtenions la gratuité du droit d'accès. Mais il faut rester prudent parce que rien n'est encore décidé. Si cette voie-là est complexe, les citoyens ont la possibilité d'obtenir le blocage de leurs données en s'adressant à leur collectivité publique pour qu'elles ne transmettent pas leurs données aux différents partis politiques. C'est une initiative d'autoresponsabilité en réalité et qui va permettre aux citoyens d'avoir un contrôle restreint, certes, puisqu'on ne peut pas empêcher les gens de tricher, mais un contrôle tout de même sur ces données. Il faudrait également, de mon point de vue, que les partis signent un engagement formel de respecter scrupuleusement certaines règles qui leur seraient rappelées, explicitées. Le guide, comme je vous l'ai dit, des préposés est une première base, mais on pourrait tout à fait imaginer un engagement sur l'honneur de ces partis et des différents candidats qui diraient aux citoyens, écoutez, moi je m'engage à ne pas utiliser vos données sans votre accord et à faire preuve d'une totale transparence, vous pouvez en tout temps savoir ce que j'en ai fait. Et puis finalement, évidemment que nous devrions avoir des sanctions. La sanction donc devrait être prévue dans les lois sur les droits politiques en cas d'abus avéré, mais on va y revenir tout de suite. Alors la question de savoir si des cas ont par le passé déjà été dénoncés à la justice, alors à ma connaissance, n'est effectivement pas encore arrivé pour une violation de la loi sur la protection des données, même si dans un rapport, le Conseil fédéral avait mis en exergue la possibilité donc d'avoir une violation de la Constitution fédérale par certains comportements qui visaient notamment à faire croire que quelqu'un supportait un candidat alors que ce n'était pas le cas. Mais le problème, c'est que la marge de manœuvre juridique est extrêmement limitée. Il faut un recours contre le résultat et ce résultat doit être serré entre plusieurs candidats. Alors celui qui dispose d'outils numériques et d'une très bonne base de données va certainement réussir à creuser un écart avec ses différents concurrents, ce qui signifie de facto que les recours sont quasiment dénués de chances de succès. C'est le serpent qui se mord la queue. Il faudrait avoir une démarche sur plusieurs plans pour mettre un terme à ces pratiques. Et comme le rappelait le contrôleur européen de la protection de données en mars 2018, M. Buttarelli, seule une action entre les différents secteurs stratégiques de la démocratie permettrait donc de préserver les droits des citoyens. On aurait une action en termes de protection des données, de concurrence, de protection des consommateurs, de législation électorale. Donc, si vous ne prévoyez pas des sanctions directes dans la loi électorale, le candidat va évidemment ne pas hésiter à franchir la ligne rouge puisqu'il n'encourt en définitive quasiment aucun risque de sanction. Donc, ce citoyen ne sera pas bien protégé par rapport au candidat qui serait tenté de gagner l'élection par tous les moyens. Et il y a un dernier élément qui doit être pris en considération, c'est celui de savoir si tous les partis ont les mêmes moyens en utilisant le big data, l'intelligence artificielle, pour accéder aux électeurs. Si tous les partis n'ont pas les mêmes moyens, se poserait la question d'un financement public de ces élections, parce que nous aurions, si vous voulez, des candidats qui vont faire une course au hasard sardinal et tout le monde n'aurait pas, si vous voulez, les mêmes chances au départ. Évidemment que si vous en avez un qui doit porter un sac avec 30 kg et l'autre un sac avec 2 kg, ce ne sera pas forcément le même résultat. Eh bien, c'est un peu la même chose en termes d'élection. Si vous avez une machine de guerre, si vous avez des gens qui vous aident en termes de big data et d'intelligence artificielle, eh bien, vous allez pouvoir focaliser votre action sur des électeurs, des citoyens par exemple indécis, ou alors des électeurs que vous savez de par exemple leur lieu d'habitation, leur revenu, etc., proches de vos idées, et vous allez avoir besoin de sonner à moins de portes, d'envoyer moins de courriers électroniques, d'appeler moins de gens, et cela pose évidemment un problème. Donc je pense que la régulation actuelle, sous la forme d'un guide, c'est une première démarche intéressante, mais manifestement elle sera insuffisante dès lors que tous ces outils qui sont aujourd'hui proposés pour la première fois lors de ces élections fédérales auront atteint un stade de maturité qui permettra de dire que sans leur utilisation, vos chances d'être élu seraient réellement et notablement moindres. Nous avons encore beaucoup de travail et évidemment que de ce point de vue-là, si vous constatiez quelque chose qui ne paraît pas clair ou fair-play dans le cadre des démarches des différents candidats, vous pouvez sans autre en informer le préposé fédéral dont le site est le suivant, www.lepréposé.ch. C'est lui qui pourra intervenir si besoin était. Il faut savoir qu'il n'intervient en réalité que si cela concerne un très grand nombre de personnes dans le cadre de ses recommandations. Donc n'attendez pas qu'il ait une action immédiate et vous réponde ou qu'on vous envoie un email pour vous dire on a bien pris compte de vos griefs et on va agir immédiatement. Ce n'est pas ainsi que cela se passe malheureusement pour des questions évidemment des légales mais également de moyens. Voilà, et si vous êtes un citoyen responsable, réfléchissez à la possibilité de bloquer vos données, ce qui va évidemment compliquer la tâche de tous ceux qui veulent phagocyter sans votre accord ces données dans des bases. Il y a des gens qui sont très honnêtes, qui vont respecter les règles du jeu, qui sont fixées en fonction de la législation cantonale aussi. Dans le canton du Valais, par exemple, on a une législation qui dit qu'on peut utiliser les données, mais uniquement dans le cadre donc de l'élection, puis qu'ensuite on va devoir les effacer, mais il y a des cantons, c'est un peu différent. C'est vous qui devez aussi vous intéresser aux possibilités légales de mettre un terme à un traitement de données lorsque vous considérez qu'il n'est pas conforme à vos intérêts. Merci de votre attention, c'est un sujet un peu plus long que d'habitude, environ 14 minutes, mais je pense que c'était important de pouvoir échanger sur cette thématique. Merci à vous.